Le journal vous est présenté par Jade Péchira.
Bonsoir. 6 mois que le mouvement des Gilets jaunes a commencé, ça suffit pour Emmanuel Macron. Nous avons fait notre part du travail, dit le chef de l'État, vous l'entendrez. Ils avaient reconnu leur geôlier, celui qui les avait retenus contre leur gré en Syrie pendant de longs mois. Medine Emouche est arrivé en France pour être jugé dans l'enquête sur les séquestrations de 4 journalistes français. Accepté puis finalement rejeté, la mauvaise surprise pour des lycéens sur la plateforme Parcoursup. Quand Donald Trump chamboule les droits de douane, enfin Monsanto au cœur de la tourmente, Europe Écologie Les Verts annonce à son tour porter plainte contre le fabricant du glyphosate. On en parle avec notre invité, Fabrice Nicolino, président du collectif « Nous voulons des coquelicots contre les pesticides ». À la veille d'un nouveau samedi de mobilisation, 6 mois après le début du mouvement, pour Emmanuel Macron, les Gilets jaunes n'ont plus de débouché politique. Déclaration en marge d'un déplacement à Biarritz. Le président appelle à l'arrêt des manifestations et à voter pour changer les choses.
Je crois que celles et ceux qui continuent aujourd'hui à faire cela, il n'y a plus de débouché politique. Donc nous avons fait notre part du travail. Donc vous savez, on n'avance pas en étant contre. Donc là, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui sont contre. Donc j'appelle, moi, tout le monde au calme. Il y a là une élection qui permet à nos concitoyens de s'exprimer sur les sujets européens. Il y en aura ensuite, chaque année, qui viennent sur les sujets locaux. Et puis il y aura des élections présidentielles et législatives. Que celles et ceux qui ont une autre vision de ce que doit devenir le pays, la dessinent politiquement, lui donnent forme et se présentent aux élections. Mais la démocratie, ça ne se joue pas le samedi après-midi. Moi, je tiens à l'ordre public. Je tiens à la concorde républicaine et donc je pense que maintenant, chacun doit retrouver le cours de sa vie, exprimer ses divergences d'opinion, le faire librement et le faire en particulier dans les temps que prévoit la démocratie, ce sont ceux du vote.
À 9 jours des élections présidentielles, Emmanuel Macron qui tacle aussi le Rassemblement national en tête des derniers sondages. Le bilan du RN au niveau européen, dit-il, est une catastrophe pour l'Europe et la France. Alors que l'échéance fatidique approche, celle de l'arrêt des soins de Vincent Lambert qui doit débuter lundi. Arrêt des soins qui se traduira par l'arrêt du cœur de Vincent Lambert, tétraplégique, en état végétatif depuis 10 ans. Ce soir, un comité de l'ONU redemande à la France le maintien provisoire de ses soins. Le Comité international des droits des personnes handicapées demande à ce que l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert ne soient pas suspendues pendant le traitement de son dossier par le comité. Il dort ce soir dans une cellule de la prison de Mauchoconin à l'est de Paris. Medine Emouche, le tueur du musée juif de Bruxelles, remis à la justice française. Déjà condamné à perpétuité en Belgique pour ce massacre qui avait eu lieu en 2014, Medine Emouche est aussi mis en examen dans une autre affaire. La justice antiterroriste française le soupçonne d'avoir été l'un des geôliers de 4 otages français séquestrés en Syrie en 2013-2014, Antoine Marette.
Didier François, Pierre Torres, Édouard Elias et Nicolas Hénin ont été enlevés en Syrie en juin 2013. Leur séquestration a duré un peu plus d'un an. Les 4 journalistes ont identifié Medine Emouche comme un de leurs geôliers. Au cours du procès à Bruxelles sur la tuerie du musée juif, 2 d'entre eux sont venus témoigner à la barre pour éclairer le tribunal sur la personnalité de Medine Emouche. Nicolas Hénin et Didier François ont détaillé pendant plusieurs heures les sévices endurés et son attitude pendant leur captivité. Medine Emouche a été mise en examen en novembre 2017 pour enlèvement et séquestration en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste ainsi qu'association de malfaiteurs terroristes criminels. Sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité le 12 mars dernier à Bruxelles a ouvert la voie à sa remise aux autorités françaises. Il a donc été transféré avant-hier et placé en détention provisoire à la prison de Mauchoconin, à l'est de Paris. Le juge devrait prochainement le convoquer pour un nouvel interrogatoire. Reste à savoir si Medine Emouche va parler. En juillet 2018, le magistrat s'était rendu en Belgique pour l'entendre, mais le terroriste avait opposé le droit au silence à la 60aine de ses questions.
Antoine Marette, merci. L'ascenseur émotionnel des lycéens qui attendent de savoir où ils iront à la rentrée prochaine. Des centaines, peut-être des milliers de victimes d'un bug sur la plateforme Parcoursup. Passant de la joie d'être admis dans une formation post-bac à la déception en découvrant qu'il n'était finalement pas retenu dans ses filières ou alors que sur liste d'attente. Une douche froide qui s'explique selon le ministère de l'Enseignement supérieur par des erreurs de paramétrage. arbitrage. Erreur commise par quelques 400 formations sur les 14 500 recensées sur le site. Elles auraient confondu liste d'appels et liste d'attente. Un bug inacceptable qui a provoqué quelques sueurs froides, explique Louis Boyard, président du syndicat lycéen UNL.
Quand ils ont accepté la formation, ils ont donc abandonné tous leurs autres vœux. Et quand ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'étaient pas acceptés dans la formation de base qui les avait acceptés, ils avaient tout perdu. Là, le ministère a réinitialisé. Et donc, du coup, là, ils ont retrouvé leur place dans les files d'attente. Alors qu'ils pensaient être acceptés dans la formation de leur choix, ils sont de retour dans les files d'attente de millième, où on ne sait pas quand est-ce qu'on sera accepté ou même si on sera accepté. Et donc, du coup, bah, après la déception, la colère. Faut imaginer, à un mois du bac, découvrir qu'on n'a pas la formation que l'on souhaite, retourner tout derrière dans la file d'attente, ça joue psychologiquement. Pour moi, c'est les écoles qui ont fait n'importe quoi avec le logiciel qui leur a été donné et qui ont été ou peu vigilantes ou trop gourmandes vis-à-vis des élèves qui pouvaient accepter. Et ensuite, pour moi, si jamais le ministère ne contrôle pas ces établissements-là, mais en fait, qui d'autre va le faire ? Le ministère ne contrôle pas grand-chose. Par exemple, les algorithmes qui font la sélection, c'est des algorithmes qui sont gardés au secret et que seules les facultés connaissent. Donc encore une fois, que fait le ministère avec Parcoursup ?
Louis Boyard, président du syndicat lycéen UNL, joint par Catherine Dutu. C'est un petit répit pour les constructeurs automobiles de l'Union européenne et au passage ceux du Japon. Donald Trump annonce repousser de 6 mois l'imposition de droits de douane pour l'automobile, histoire de laisser un peu plus de temps aux négociations commerciales en cours. Des droits de douane censés protéger les constructeurs américains. Le problème, Grégory Philippe, c'est que cela peut aussi être très néfaste pour le commerce international.
Oui, néfaste pour tout le monde, j'ai envie de dire. Parce que si dans 6 mois, il n'y a pas d'accord, que va faire la Maison Blanche ? Eh bien, augmenter les tarifs sur toutes les voitures importées aux États-Unis. On parle d'une taxe de 25% également concernée les pièces détachées. Ça aurait donc des conséquences, évidemment, pour les constructeurs européens et japonais qui auront beaucoup plus de mal à vendre leurs produits aux États-Unis. Mais ça aurait aussi des conséquences pour les constructeurs américains qui, par exemple, font venir de Chine des composants ou des pièces détachées. On a calculé que si on appliquait ces tarifs, le prix des voitures made in America augmenterait de 400 à 6000 dollars selon les modèles. Donc il n'y a pas grand monde ici, ni les constructeurs ni les consommateurs qui pensent que ce serait une bonne idée. Enfin, plus largement, des taxes douanières sur l'automobile, ça aurait aussi des conséquences sur le commerce mondial, car il ne faut pas oublier que la voiture est au cœur des échanges internationaux et une telle décision pourrait considérablement affecter la croissance mondiale. On sera fixé, vous l'avez dit, dans 6 mois, 180 jours, c'est le délai de réflexion que se donne Trump. Quant à l'Europe, elle dit ce soir par la voix de sa commissaire au commerce qu'elle est prête à négocier un accord commercial avec les États-Unis, un accord qui inclurait les voitures.
Grégory Phillips depuis Washington. Autre accord commercial annoncé ce soir par la Maison Blanche. Les États-Unis acceptent de supprimer les droits de douane sur l'acier et l'aluminium venant du Canada et du Mexique. Un grand pas vers la ratification du nouvel accord de libre-échange nord-américain. Une liste noire pour les pirates du web, c'est une première en Europe. L'Union européenne pourra désormais imposer des sanctions aux personnes ou aux entités responsables de cyberattaques, comme l'interdiction de voyager vers l'Union européenne ou le gel des avoirs. L'Union européenne qui n'a pas désigné de pays en particulier, même si ses membres ont à plusieurs reprises dénoncé des attaques menées depuis la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Trop, c'est trop. Après plusieurs médias, dont Radio France, après plusieurs ONG, Europe Écologie Les Verts annonce à son tour porter plainte contre Monsanto après les révélations sur le fichage de plusieurs de leurs militants, de journalistes, de politiques, des personnalités fichées en fonction de leur position vis-à-vis du glyphosate. Pour en parler avec nous ce soir, Fabrice Nicolino, vous êtes vous-même journaliste, président du collectif Nous voulons des coquelicots contre les pesticides, collectif qui participera à une grande journée de mobilisation demain. Bonsoir.
Bonsoir.
Fabrice Nicolino, cette affaire de fichage, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein, au-delà du glyphosate, au-delà des pesticides, sur les pratiques de Monsanto ?
J'espère que c'est la goutte d'eau. Mais si c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il faut bien dire que la goutte d'eau est sacrément dégoûtante. Monsanto, c'est vraiment une entreprise criminelle. Et ça, c'est fondamental. C'est pas une entreprise ordinaire, normale, qui jouerait le jeu normal des affaires. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, il y a une certaine clarté. Avec Monsanto, c'est l'opacité, la rapacité, bien sûr, mais aussi les coups tordus. L'existence d'un cabinet noir, d'un vrai cabinet noir, hein, on emploie souvent cette expression à tort et à travers, mais chez Monsanto, c'est vrai. il y a un cabinet noir qui utilise des méthodes de voyous, des méthodes de désinformation, qui par exemple achètent, il n'y a pas d'autre mot, on le sait avec certitude, c'est documenté, donc qui achètent des scientifiques, qui leur donnent de l'argent en échange de quoi ces scientifiques signent des papiers soi-disant scientifiques qui ont été écrits par Monsanto. Ce sont des méthodes incroyables, où il y a aussi des opérations de discrédit, de disqualification de scientifiques indépendants qui gênent Monsanto ou d'autres groupes d'ailleurs de l'agrochimie. Et en fait, on est confronté à quelque chose d'assez atroce, quoi. D'abord de très puissant, Monsanto bien qu'affaibli par les amendes et les dommages et intérêts infligés aux États-Unis depuis quelques semaines, reste une grosse entreprise, mais on est vraiment face à quelque chose de puissant et de tout à fait effrayant. Vraiment.
Vous parlez des scientifiques liés à les agriculteurs également. France 2 diffusait hier soir un documentaire d'envoyé spécial intitulé « Les secrets de Monsanto ». On y apprend notamment qu'une entreprise de lobbying a créé de toutes pièces une association d'agriculteurs recrutés à leur insu pour défendre le glyphosate. Ça va loin.
Oui. Je m'excuse, je m'appelle de rigoler. Bon, c'est pas très drôle, mais tout de même, là, ils sont pris la main dans le sac. Et là, je riais parce que franchement, le mouvement des coquelicots dont je m'honore d'être le président, ce mouvement reçoit constamment sur Twitter ou Facebook des messages soi-disant vengeurs de paysans dont on donne le nom, qui s'indignent de ce que nous réclamons tout simplement la fin du système des pesticides. Et là, on apprend grâce à Envoyé Spécial que tout ça n'est que grossière manipulation.
Le parquet de Paris qui ouvre une enquête judiciaire sur cette affaire de fichage, ces nouvelles révélations sur le lobbying. Il y a eu aussi cette condamnation de Bayer qui a racheté Monsanto. Il y a 3 jours, Bayer condamné à verser 2 milliards de dollars à un couple d'Américains pour qui le Roundup, l'herbicide, était à l'origine de leur cancer. On a l'impression que Monsanto est cerné ces derniers temps.
Mais Monsanto est en train de disparaître, il faut le savoir. C'est-à-dire Bayer a fait une très mauvaise affaire en rachetant Monsanto. Bayer voulait acquérir une dimension mondiale dans l'agrochimie parce qu'il y a eu des fusions très importantes. Le paysage mondial a changé. Bayer, pour rester dans la cour des très grands, devait racheter Monsanto. Ça, c'était une sorte d'obligation.
À 63 milliards de dollars.
Oui, mais sauf que la capitalisation boursière de Bayer s'est évaporée. Enfin, il y a des dizaines de milliards d'euros de capitalisation boursière qui ont disparu tout simplement parce que les gens les capitalistes, si vous me permettez, les actionnaires ne misent plus sur l'entreprise parce que racheter une société qui est plombée comme Monsanto et qui risque de coûter, il y a 16 000 plaintes aux États-Unis. Vous vous rendez compte, il y a 3 procès qui accordent 2 milliards et presque 500 millions de dollars de dommages et intérêts. Il y a encore 16 000 plaintes derrière.
13 000.
Oui, c'est colossal, c'est simplement colossal. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bayer pourrait être menacé, en vérité. Bayer vaut moins cher aujourd'hui en bourse que le prix que Bayer a acheté Monsanto. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en pleine folie. Hein.
Et le coup de grâce, ce sera cette manifestation demain, ou plutôt ces marches. Ce n'est pas la première, mais
j'aimerais.
Les planètes sont quelque peu alignées contre Monsanto.
Oui, c'est une marche mondiale contre Monsanto. Il y a 38 villes en France où il va y avoir des rassemblements et des manifestations, des marches. Il y a une centaine d'organisations qui soutiennent ces marches. On exige le respect des règles élémentaires de la démocratie. Et pour ça, on est prêt à aller très loin.
Et ces marches, elles ne visent pas exclusivement Monsanto et le glyphosate?
Non. Enfin, en ce qui concerne, peut-être certains visent seulement le glyphosate et Monsanto, mais là, je vous parle au nom du mouvement des coquelicots, il est sûr qu'on réclame la fin du système des pesticides parce que c'est une industrie qui est globalement criminelle. Tous ne vont pas aussi loin que Monsanto, peut-être, encore que ça reste à démontrer, mais ce qui est sûr, c'est que la logique de cette industrie, l'agrochimie, c'est une logique criminelle parce que on sait avec certitude. Et toutes les manœuvres de diversion et désinformation ne réussiront pas à changer les faits. On sait avec certitude, grâce à des centaines d'études scientifiques de niveau international, que les pesticides tuent tout. On veut revenir à des choses simples. L'agroécologie, c'est l'avenir des hommes, c'est l'avenir de l'humanité. Et pour ça, il faut se débarrasser de la totalité des pesticides de synthèse. Et cette industrie, elle doit disparaître. Tout simplement, elle doit disparaître. Et c'est argumenté et documenté. Je sais de quoi je parle.
Merci Fabrice Nicolino d'avoir accepté l'invitation de France Culture ce soir, président du collectif Nous voulons des coquelicots qui marchera donc contre Monsanto et les pesticides demain à Paris. Départ à 14h de la place de la République. La météo de votre samedi, ce sera maussade et pluvieux. Seul le golfe du Lion retrouvera quelques rayons de soleil dans l'après-midi grâce à la tramontane. Côté température, ça reste assez frais. Le matin à compter entre 7 et 10 degrés, 10 à 13 près de la Méditerranée. Au meilleur de la journée, le thermomètre affichera 13 à 17 sur un grand quart sud-ouest, 17 à 22 sur la Méditerranée, le Grand Est, le Centre et le Nord, de 15 à 18 sur le Nord-Ouest. C'est la fin de ce journal préparé avec Brice Garcia à la technique ce soir, Souad Boukorsa.